Donc la réunion du cercle Léon Trotsky va commencer. Le sujet de ce soir, vous le connaissez sans doute, Syriza, Podemos et les gauches radicales. Nous allons donc parler ce soir de deux mouvements, Syriza en Grèce et Podemos en Espagne, dont les succès et les expériences ont été suivis et discutés ici même en France, dans les milieux de gauche, par les militants, mais à certains moments par beaucoup de travailleurs. En Grèce, Syriza a réalisé en 2 ans une percée électorale qui a permis à cette coalition de petites organisations d'extrême gauche d'arriver au pouvoir en janvier 2015 et à son dirigeant, Alexis Tsipras, de devenir Premier ministre. En Espagne, Podemos n'est apparu sur la scène politique qu'en janvier 2014 et aux élections législatives de décembre 2015, il est arrivé en 3e position. Avec 20% des voix. Ces deux mouvements ont en commun d'avoir su exprimer la colère d'une partie importante des classes populaires contre les politiques d'austérité et contre tous les partis, de droite comme de gauche, qui se sont succédés au pouvoir pour les mettre en œuvre. Des courants similaires de cette gauche de la gauche ou gauche radicale existent dans bien d'autres pays. Au Portugal, une coalition de groupes d'extrême-gauche ayant fait campagne contre l'austérité, le Bloc des Gauches, a recueilli 10% des voix aux élections législatives d'octobre 2015. Cette formation a accepté de soutenir un gouvernement socialiste, dont le dirigeant, Antonio Costa, a promis de mener une politique anti-austérité. Ces promesses ont convaincu le Bloc de Gauche d'apporter son soutien à un parti qui, au pouvoir entre 2005 et 2011, avait été le premier à mettre en œuvre des plans d'économie contre sa population. En Angleterre, c'est un membre de l'aile gauche, Jeremy Corbyn, qui a été élu à la tête du vieux parti travailliste en septembre 2015. Corbyn l'a emporté en proclamant la nécessité de rompre avec les politiques dites libérales, privilégiant les intérêts du monde des affaires. Pendant la campagne, pour l'élection de la direction du Parti travailliste, Corbyn a proposé notamment la renationalisation des chemins de fer, la nationalisation des banques et l'augmentation des impôts sur les plus riches. Mais l'élection de Corbyn n'a pas changé la nature d'un parti qui participe depuis plus d'un siècle à la gestion des affaires de la bourgeoisie contre la population, et dont l'appareil est profondément intégré à tous les niveaux aux institutions. D'ailleurs, Corbyn a parfaitement compris la situation et il n'a pas manifesté l'intention de bouleverser la vie politique britannique. Il s'est plié à tous les usages, y compris celui qui veut que le dirigeant du Parti travailliste s'agenouille devant la reine. En France, aucun de ceux qui ont cherché à fédérer ou rassembler la gauche de la gauche n'y sont parvenus à ce jour. Ni le Parti communiste, ni l'ex-sénateur et ex-ministre socialiste Jean-Luc Mélenchon, qui s'était allié pour constituer le Front de Gauche. Mais la perspective qu'ils mettent en avant est bien celle de constituer un Podemos à la française. Les initiateurs du mouvement Nuit Debout et ceux qui participent au campement qui se tient place de la République rêvent eux aussi de suivre l'exemple des indignés espagnols et de Podemos. Pour le moment, ces rassemblements sont très loin d'atteindre le niveau de ceux qu'a connu l'Espagne en 2011. Nous ne savons pas si un tel mouvement peut se développer dans les semaines ou les mois à venir. Mais nous avons voulu revenir sur ce qui s'était passé en Espagne pour voir les limites des perspectives de Podemos et de tous ceux qui s'en inspirent. Par-delà leurs différences, tous ces mouvements de la prétendue gauche radicale, qui prétendent incarner une nouvelle façon de faire de la politique, ne font que proposer une nouvelle variante de réformisme. Tous prétendent que dans le cadre des institutions parlementaires, il est possible d'imposer une politique favorable aux plus pauvres, d'influer sur les choix de ceux qui dirigent le monde capitaliste, d'obtenir de leur part qu'ils respectent les droits des peuples, leurs droits sociaux, leur droit à manger, se vêtir, se soigner, se loger. Ils se présentent comme anti-système, mais ils défendent le système politique bourgeois en le présentant comme, certes, imparfait, mais réformable, puisqu'il suffirait de voter pour que cela change. Et tous ces mouvements partagent un autre point commun. Ils se gardent bien de faire appel à l'intervention des travailleurs, à leur lutte, à leur mobilisation. Ils ne parlent d'ailleurs jamais de la classe ouvrière, ni de lutte de classe. Non, ils s'opposent en représentant du peuple, en partisans de la vraie démocratie. Sans même s'en rendre compte, cette gauche radicale ne fait que recycler les vieux discours usés après avoir servi pendant des décennies aux politiciens traditionnels du monde bourgeois. Et nous avons pu voir en Grèce, après l'arrivée au pouvoir de Syriza, l'impasse à laquelle conduisait la politique proposée par ses partis. Le soir de sa victoire électorale, Tsipras proclamait qu'il allait en finir avec les politiques d'austérité. 6 mois plus tard, en juillet 2015, le même Tsipras capitulait complètement devant les exigences des créanciers de la Grèce en acceptant, tout comme ses prédécesseurs, de mettre en œuvre un plan de mesures d'austérité contre sa population. Alors nous avons voulu revenir sur cette expérience et sur les leçons politiques qu'il est possible d'en tirer. Car ces leçons sont valables bien au-delà de la Grèce. Dans cette période où beaucoup de travailleurs se détachent des vieux partis réformistes, il est important de comprendre ce que représentent ces mouvements qui se présentent comme une nouvelle alternative et qui ne font en réalité que tenter de susciter de nouvelles illusions. Nous avons fait le choix de ne parler ce soir que de Syriza et de Podemos. Ces deux partis, du fait des succès qu'ils ont rencontrés, servent un peu de modèle à tous les autres. Du fait aussi de ces succès, ils jouent réellement un rôle politique important dans leur pays. Ainsi, on peut voir en quoi consiste leur politique au-delà de leur discours et comprendre pourquoi ils ne peuvent en rien changer le sort de la population. Et pour en parler, je passe la parole à Marc Rémy.
Alors, on ne peut pas comprendre la situation de la Grèce, puisque nous allons commencer par parler de la Grèce, sans commencer par rappeler que cet État, dès sa création en 1832, a été transformé très rapidement en une véritable semi-colonie des grandes puissances européennes. Elles ont choisi son régime politique en lui imposant une monarchie. Elles ont choisi le premier de ces monarques, Othon de Bavière, issu d'une des familles princières d'Europe. Et au XIXe siècle, par le biais de la dette, déjà à cette époque, elles ont placé son État et son économie sous leur dépendance. Par la suite, la Grèce fut l'objet de la lutte des impérialismes qui se disputaient le contrôle de l'Europe. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le pays fut d'abord envahi par des troupes italiennes. Celles-ci, ne parvenant pas à venir à bout de l'armée grecque, Mussolini dut faire appel à son allié allemand, qui occupa le pays pour son propre compte jusqu'en 1944. Après la guerre, au terme des accords passés entre les dirigeants impérialistes et les représentants de la bureaucratie soviétique, la Grèce se retrouva dans la zone sous contrôle britannique. Ce fut donc un corps expéditionnaire britannique qui imposa la restauration de la monarchie, malgré l'opposition d'une grande partie de la population qui ne fut pas du tout consultée. Cette décision ne devait rien à un quelconque attachement des dirigeants britanniques à la tradition monarchique. Le premier ministre anglais de l'époque, Winston Churchill, voulait démontrer que son armée défendrait la continuité des institutions et de l'ordre social dans cette période troublée. En effet, d'importants mouvements de résistance à l'occupation allemande s'étaient développés sous le contrôle du Parti communiste grec, le KKE. C'est la prononciation française, hein, pour les puristes qui seraient choqués. Après le départ des occupants, ils étaient parvenus à contrôler toute une partie de la Grèce. Très rapidement, les nouvelles autorités en place engagèrent des opérations militaires pour les réduire. Les communistes grecs et leurs organisations furent écrasés durant une longue guerre menée par les troupes du nouveau régime grec, fortement appuyées par des troupes britanniques. Affaibli par la Deuxième Guerre mondiale, le Royaume-Uni dut passer le relais à l'impérialisme américain qui, à son tour, ne ménagea pas ses efforts pour permettre la victoire du gouvernement grec. Après la fin de la guerre civile, le nouveau régime continua d'organiser la chasse aux militants de gauche et le Parti communiste resta illégal pendant près de 30 ans. Dans les années 1950, un certificat de moralité politique était indispensable pour accéder à l'administration, pour entrer à l'université et même pour obtenir un permis de conduire. Comme le précisait une circulaire du ministère de l'Intérieur, l'administration chargée d'établir ce certificat devait rechercher, je cite, des renseignements relatifs aux pensées sociales, aux comportements et au dévouement aux idéaux nationaux du demandeur et de son environnement familial immédiat, parents, frères et sœurs. Autant dire que beaucoup de militants et de sympathisants de gauche furent victimes de cette chasse aux sorcières. Et au sein de cet État très répressif, le poids de l'armée et de la police politique était prépondérant. En 1967, l'armée décida de prendre totalement les affaires en main en organisant un coup d'État. Le régime des colonels, comme on l'a appelé, instaura pendant 7 ans une dictature militaire féroce. Des milliers de militants furent arrêtés, torturés, emprisonnés ou déportés dans les îles. Les colonels purent compter sur le soutien des dirigeants américains qui appréciaient leur action contre les mouvements communistes. La sortie de la dictature s'effectua en 1974, d'une façon contrôlée. Les principaux partis se reconstituèrent et s'accordèrent pour éviter les mobilisations populaires et empêcher qu'elles ne puissent perturber cette transition politique. Le Parti communiste put retrouver alors une existence légale. Aux premières élections organisées, il obtint près de 10% des voix, ce qui démontrait que malgré la répression de la période d'après-guerre et de la dictature, un courant se réclamant du communisme était parvenu à se maintenir, en particulier dans les milieux populaires et ouvriers. Le PASOK, le Parti socialiste grec, fut fondé en 1974 par un homme issu de la classe politique traditionnelle, Andrea Papandreou, lui-même fils du politicien libéral qui dirigea le premier gouvernement imposé par les Britanniques en 1944. Le PASOK n'obtint que 14% des voix aux premières élections et la droite l'emporta. Elle resta au pouvoir durant les 7 années suivantes, mais les résultats du PASOK augmentèrent à chaque scrutin. Et finalement, en 1981, eut lieu, pour la première fois en Grèce, l'alternance qui permit aux socialistes d'accéder à leur tour aux responsabilités gouvernementales. C'est aussi en 1981 que la Grèce rejoignit la Communauté économique européenne. Dans les années 1990, la population se vit imposer par les gouvernements de gauche et de droite qui se succédèrent. Ils se virent imposer des efforts pour pouvoir être, comme ils disaient, au rendez-vous de l'euro en 2001. Alors on sait aujourd'hui que les comptes présentés par la Grèce à la Commission européenne avaient été arrangés de façon à masquer le niveau réel de ses déficits publics. Et en fait, si les dirigeants européens n'ont pas été trop regardants, c'est bien parce que l'entrée de la Grèce dans la zone euro a permis aux capitalistes européens, allemands et français en particulier, d'accroître leur emprise sur l'économie du pays. La modernisation des infrastructures financées par les fonds européens leur ont permis de développer plus facilement leurs activités, d'y écouler leurs marchandises, de racheter de nombreuses entreprises. Les banques, en particulier, ont tiré profit de l'entrée de la Grèce dans la zone euro. Elles ont prêté massivement au secteur privé comme au pouvoir public, elles ont renforcé leur présence, mettant la main sur toute une partie du secteur bancaire du pays. Après l'éclatement de la crise financière en 2008, grâce aux énormes masses de liquidités mises à leur disposition à très bas coût par les banques centrales, elles ont continué de plus belle. Les banquiers se comportèrent comme une de ces officines de crédit revolving qui prête sans se préoccuper de la capacité de rembourser de l'emprunteur, le poussant au surendettement. Ils firent le calcul qu'ils n'avaient pas à se préoccuper de la capacité de la Grèce à rembourser ses dettes, car du fait de son appartenance à la zone euro, eh bien, ils pouvaient compter sur l'intervention des grands pays européens. Et le calcul fut juste. C'est en effet ce qu'il se produisit quand, à partir de la fin de l'année 2009, l'État grec fut contraint de se tourner vers ses partenaires européens pour trouver les moyens d'éviter la banqueroute financière. En intervenant, Les dirigeants de l'Union européenne n'avaient pas comme préoccupation de sauver la Grèce, comme ils l'ont prétendu. La spéculation se déchaînait alors contre d'autres États très endettés de la zone euro. Et au plus fort de cette crise, l'éventualité d'une disparition de la monnaie européenne fut ouvertement évoquée. Pour éviter ce scénario, les dirigeants européens durent donc rassurer les marchés financiers, les convaincre qu'aucun État européen ne se retrouverait en défaut de paiement. Le premier plan d'aide à la Grèce, plan d'aide avec plein de guillemets, a été élaboré en mars 2010 entre les dirigeants de l'Union européenne et le Fonds monétaire international, le FMI. Il prévoyait le versement d'un prêt de 110 milliards d'euros sur 3 ans. Il fut suivi d'un deuxième plan, annoncé en juillet 2011, prévoyant un nouveau versement de 100 milliards d'euros. Mais ces sommes, au montant impressionnant, n'ont pas été mises à la libre disposition du gouvernement grec. Elles ont servi exclusivement à payer les dettes, c'est-à-dire à assurer les profits des banquiers. D'ailleurs, pour dégager définitivement les banquiers de tout risque, les gouvernements ont organisé le rachat des titres de la dette grecque par des organismes financiers européens. C'est ainsi que la charge de la dette privée grecque a été transférée aux États européens, qui en détiennent aujourd'hui plus de 80%, et que tous les contribuables européens ont été invités à payer pour sauver les profits des banquiers. Chacun de ces prétendus plans d'aide à la Grèce fut accompagné d'un mémorandum, un long texte dressant la liste des mesures d'austérité imposées au gouvernement grec qui se retrouvait complètement mis sous tutelle. Une troïka constituée par des représentants de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne, la BCE, et du FMI devait s'assurer que le gouvernement grec tenait ses engagements. Tous les 3 mois, une évaluation conditionnant la poursuite de l'aide financière devait être faite par des envoyés de la troïka qui, se rendant à Athènes, épluchait tous les comptes publics et faisait le bilan des mesures prises. Les dirigeants des grands États européens et du FMI se comportèrent comme des huissiers qui viennent saisir les biens d'un débiteur en répétant continuellement qu'une dette, ça se rembourse, quelles que soient les conséquences. Mais en l'occurrence, il s'agissait d'une dette qui avait été faite par les banquiers et pour leur seul profit. Et c'est à la population, aux travailleurs et aux classes populaires qu'on a imposé de la payer. Justifiée par la nécessité de résoudre le problème de l'endettement de la Grèce, cette politique n'a fait au contraire que l'aggraver encore. Les mesures d'austérité imposées à la Grèce ont entraîné une diminution, année après année, de l'ensemble de l'activité économique. Le produit intérieur brut, qui mesure la richesse créée, aurait reculé de 25% d'après les statistiques officielles entre 2008 et 2015. La Grèce était donc contrainte de continuer d'emprunter pour rembourser une dette dont le poids ne faisait que s'accroître. Beaucoup ont dénoncé le caractère absurde de cette politique. Mais ces milliards obtenus en vidant les caisses de l'État grec et en saignant son économie n'ont pas disparu en fumée. Ils ont alimenté les profits des banquiers et du monde de la finance. Alors les politiques d'austérité menées en Grèce démontrent en fait le caractère parasitaire du fonctionnement de l'économie capitaliste aujourd'hui. Cela démontre comment dans cette période de crise, pour continuer de faire des profits, les capitalistes condamnent des populations entières à des régressions dramatiques. Les politiques d'austérité imposées à la Grèce ont véritablement ravagé la société grecque. Toutes les administrations publiques ont vu en très peu de temps leurs effectifs réduits fortement. Plus de 100 000 postes ont été supprimés dans la fonction publique. De nombreux travailleurs ont été mis en retraite anticipée sans être remplacés. Des contractuels ont été renvoyés et des activités ont été sous-traitées au privé du jour au lendemain. Au nom de cette politique d'économie, un plan de privatisation a été engagé concernant en particulier les grands équipements tels que le port du Pirée et les aéroports. L'objectif fixé a été de dégager la somme faramineuse de 50 milliards d'euros. Un organisme a été constitué pour trouver des acquéreurs et les capitalistes, en particulier des grandes sociétés étrangères, ont été invités à venir faire leur marché. Les employés de la fonction publique ont été les premières victimes de ces politiques d'économie. Ils ont subi des baisses de salaire, dépassant pour certaines catégories 40% en à peine 2 ans. Le temps de travail a été porté de 37h30 à 40 heures, sans compensation salariale. Mais c'est toute la population qui a été frappée de plein fouet par les conséquences de ces baisses de budget. La santé et l'éducation en particulier ont été sacrifiées. Aujourd'hui, en Grèce, les hôpitaux n'ont plus les moyens d'acheter de médicaments et doivent demander l'aide d'ONG comme Médecins du Monde. Les écoles n'ont plus les moyens de chauffer les classes en hiver. Et comme on ne dispose plus de manuels en nombre suffisant, il est demandé aux parents de faire eux-mêmes, quand ils le peuvent, des photocopies. Des universités ont été carrément fermées, ainsi que 20% des IUT. Dans le même temps, la population a subi de fortes hausses d'impôts. La TVA et de nombreuses taxes frappant la consommation ont été augmentées. Un nouvel impôt a été créé, basé sur la propriété immobilière, ce qui touche beaucoup de monde dans un pays où la majorité des habitants sont propriétaires de leur habitation. Comme il n'existe pas de cadastre national en Grèce, le gouvernement décida en 2012 de l'appliquer à tout bâtiment pourvu d'une ligne électrique et de le percevoir avec la facture d'électricité. Ainsi, ceux qui ne paieraient pas se trouveraient menacés d'une coupure de courant. Les créanciers de la Grèce lui ont imposé aussi de réformer son système de retraite jugé trop avantageux, c'est-à-dire d'allonger la durée de cotisation et de repousser l'âge de départ de 58 à 60 ans, puis à 65 ans. La législation du travail a été réformée, elle aussi, ce qui, dans le langage des dirigeants de la bourgeoisie, signifie que les droits des travailleurs ont été laminés. Les conventions collectives ont été supprimées pour permettre la généralisation des emplois précaires et la baisse des salaires. Ce dernier objectif était d'ailleurs explicitement évoqué dans le premier mémorandum qui imposait une, je cite, « une convergence progressive des rémunérations avec celles en vigueur dans les pays concurrents comme la Bulgarie, la Roumanie, le Pakistan ou le Bangladesh ». D'après la principale caisse d'assurance sociale du pays, entre 2009 et 2013, le salaire moyen dans le privé serait passé d'environ 1 000 euros à 800 euros. Soit une baisse de 20%. Le gouvernement lui-même a œuvré dans ce sens en baissant le salaire minimum en 2012 de 22%. Il a donc été fixé à 586 euros et même à 511 euros pour les moins de 25 ans. Et il faut quand même préciser que le coût de la vie dans l'agglomération d'Athènes où vit la majorité de la population est sensiblement le même qu'à Paris. Conséquence des licenciements et des nombreuses faillites de petites entreprises et de commerces, le chômage a explosé. D'après les statistiques officielles, il dépasse aujourd'hui le quart de la population active et il est de plus de 50% pour les jeunes de moins de 25 ans. Et en Grèce, se retrouver au chômage, c'est très rapidement plonger dans la pauvreté, car l'allocation chômage ne peut être perçue au-delà d'un an et du coup, à peine 20% des chômeurs sont indemnisés. Et ceux qui arrivent en fin de droit perdent toute couverture sociale. D'après Médecins du Monde, un tiers des Grecs serait dans ce cas et beaucoup se sont trouvés contraints de fréquenter les structures de cette ONG pour avoir accès aux soins de base. Une étude de la Commission du budget du Parlement, cherchant à établir le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté ou menacées par la pauvreté, est arrivée au chiffre de 6 millions sur une population totale, rappelons-le, de 11 millions d'habitants. Alors, conséquence de toutes ces mesures, en Grèce aujourd'hui, beaucoup de gens, en effet, ont du mal à se nourrir, ont du mal à se soigner. Beaucoup de gens peuvent mourir d'une maladie parce qu'ils n'en ont pas les moyens de se soigner. Eh bien, ce n'était pas comme ça il y a 5 ans. Alors, face à cette catastrophe sociale, les travailleurs ne sont pas restés sans réaction. Ils ont été nombreux à participer aux actions et aux mobilisations appelés notamment par les deux grandes confédérations syndicales, la Confédération Générale du Travail de Grèce, qui représente les travailleurs du secteur privé, et la Confédération des syndicats de fonctionnaires. Bien que moins importante Du point de vue numérique, une autre organisation syndicale, PAME, ce qui veut dire le Front de lutte des travailleurs, joue très souvent un rôle dans les luttes sociales, dans les luttes de travailleurs, car étroitement liée au Parti communiste. Elle regroupe une partie des militants les plus combatifs de la classe ouvrière. Certaines de ces luttes ont eu un retentissement national, comme celle des 595 femmes de ménage employées par le ministère des Finances. Celles-ci ont appris un matin, en arrivant au travail, qu'elles étaient mises en disponibilité, avec leur salaire réduit et menacées à terme d'être purement et simplement licenciées. Eh bien, pendant 20 mois, elles se sont mobilisées quotidiennement, installant un campement devant le ministère, n'hésitant pas à résister à la police envoyée pour les déloger. La lutte des travailleurs de l'aciérie d'Aspropyrgos, près d'Athènes, a elle aussi été soutenue par un mouvement de solidarité à l'échelle du pays. Les 300 ouvriers de cette usine ont fait grève pendant 9 mois pour refuser la baisse de 40% de leur salaire et la réduction de leur journée de travail de 8 à 5 heures. Il n'y a pas de statistiques officielles concernant les grèves, car le ministère du Travail en Grèce ne les comptabilise pas. Mais d'après les recensements des syndicats, des centaines de grèves ont eu lieu dans les entreprises du secteur public comme du privé contre les licenciements, les baisses de salaire. Certaines d'entre elles ont donné lieu à de violents affrontements avec la police. Lors de leur grève en 2013, les employés du métro ont défié la réquisition décidée par le gouvernement, de même que les marins des lignes de ferry reliant les îles au continent. Toutes ces mobilisations ont souffert de leur émiettement, car les organisations syndicales ne cherchèrent pas véritablement à les unifier. Elles se sont contentées d'appeler régulièrement à des journées de grève générale. Il y en a eu plus d'une vingtaine au total depuis 2010. Elles ont presque à chaque fois été très massivement suivies. Et elles ont donné lieu à d'importantes manifestations de dizaines de milliers de travailleurs dans les principales villes de Grèce. Au-delà des salariés, beaucoup d'autres catégories de la population ont fait entendre leur colère, frappées elles aussi par la crise et les mesures d'austérité, comme les artisans taxis, les commerçants, les avocats. Le mouvement des indignés en mai et juin 2011 a bénéficié d'une grande couverture médiatique. Suivant l'exemple de ce qui se faisait dans d'autres pays, notamment en Espagne, et qu'on verra plus tard, des dizaines de milliers de personnes manifestèrent sur les places publiques des principales villes de Grèce, organisant leur occupation, comme sur la place Syntagma, la place de la Constitution, la grande place d'Athènes devant le Parlement. Quand la mobilisation retomba et que les places se vidèrent, une partie des jeunes qui s'étaient mobilisés s'investirent particulièrement dans les réseaux associatifs qui se développèrent pour venir en aide à ceux qui étaient le plus touchés par la crise. Toutes ces luttes, ces mobilisations, ces initiatives ont montré la volonté des travailleurs et d'une partie de la population de s'opposer aux sacrifices imposés par les gouvernements, successivement dirigés par la gauche et par la droite. En effet, en 2009, le premier gouvernement à se voir imposer un mémorandum était dirigé par le socialiste Georges Papandréou. En 2011, il céda la place à un gouvernement de coalition comprenant, aux côtés des socialistes, des ministres du parti de droite, Nouvelle Démocratie. Après les élections législatives de 2012, un nouveau gouvernement de coalition, comprenant toujours des socialistes, se mit en place avec comme premier ministre cette fois le dirigeant de droite de la Nouvelle Démocratie, Antonis Samaras. Ainsi, les deux partis qui s'étaient succédés depuis des décennies au pouvoir s'associèrent pour appliquer ensemble les plans d'austérité et appauvrir la population. Le dégoût et la colère des classes populaires commencèrent à se traduire par des déplacements de voix aux élections législatives de mai 2012 qui mirent fin au bipartisme qui avait prévalu jusque-là. Le PASOK s'effondra et perdit plus des deux tiers de son électorat. Ces électeurs se reportèrent vers l'extrême gauche, sur Syriza, qui fit une spectaculaire percée électorale, triplant son nombre d'électeurs pour atteindre près de 17% en mai 2012. Et même, un mois après, en juin 2012, près de 27%. Syriza devenait ainsi le deuxième parti à l'échelle nationale. Syriza, qui signifie « coalition de la gauche radicale », était un regroupement d'une dizaine de petites organisations d'extrême gauche qui s'était constitué au début des années 2000. La principale composante de ce mouvement, Synaspismos, était elle-même une coalition de courants, presque tous issus du Parti communiste, dont les militants étaient surtout présents dans les milieux universitaires et enseignants. Par ses prises de position et ses interventions, Syriza s'était gagné la sympathie de ceux qui s'étaient mobilisés contre les plans d'austérité. On ne trouvait pas, ou très peu, de militants de Syriza dans les entreprises et dans les grèves. Par contre, ces militants avaient créé une organisation, Solidarité pour tous, qui participait à la mise en place de dispensaires, d'épiceries solidaires, de soutien scolaire dans les quartiers populaires. Syriza attira aussi beaucoup de militants du PASOK, y compris parmi des responsables. En 2012, les listes de Syriza comprenaient un certain nombre d'anciens députés socialistes. Au fur et à mesure que son audience électorale s'élargissait, Syriza chercha de plus en plus à atténuer son image d'extrême gauche et à apparaître comme un parti capable de gouverner. Et c'est ainsi que le 25 janvier 2015, Syriza remporta les élections législatives en recueillant cette fois 36% des voix et que son dirigeant, Alexis Tsipras, devint Premier ministre. Pour obtenir une majorité à l'Assemblée, Tsipras avait besoin de trouver un allié. Il n'avait pas le nombre de députés suffisant à lui seul. Eh bien, cet allié, il le trouva à l'extrême droite, avec le parti des Grecs indépendants, l'ANEL, dont le dirigeant, Panos Kamenos, était connu pour ses propos antisémites et homophobes. Tsipras en fit son ministre de la Défense, d'ailleurs, faisant peut-être le calcul qu'il pouvait plaire à une partie des militaires. En fait, que Tsipras tende la main à ce parti d'extrême droite n'avait rien d'étonnant. En effet, le dirigeant de Syriza s'était fait élire en promettant de lutter pour reconquérir la souveraineté de la Grèce face aux institutions européennes. C'était véritablement l'axe de son programme. Et pour mener à bien ce combat, il avait toujours prôné la nécessité de l'unité nationale. Pour Tsipras, cette reconquête de la souveraineté consistait à revendiquer le droit de l'État grec de déterminer lui-même son budget, de pouvoir décider lui-même ses investissements sans avoir à en référer à un envoyé de la Troïka. Parmi les dépenses présentées comme prioritaires, le programme de Tsipras en mentionnait plusieurs, qui étaient destinées à mettre fin à la crise humanitaire, comme le disait son programme. Tsipras avait promis, par exemple, l'électricité gratuite, la distribution de repas et la garantie d'un accès aux soins pour les familles les plus pauvres. Un certain nombre des promesses de Syriza concernaient plus directement les travailleurs. Tsipras s'était engagé à rétablir le salaire minimum au niveau qui était le sien avant 2012 et à revenir sur toutes les remises en cause de la législation du travail. Dans ce contexte, il était normal que nombre de travailleurs en Grèce aient mis leurs espoirs en Tsipras et aient voté pour lui. Mais cela ne faisait pas de Tsipras un représentant des intérêts politiques des travailleurs. Le dirigeant de Syriza n'a jamais prétendu offrir une perspective de changement s'adressant aux travailleurs. Ce volet social ne représentait qu'un des aspects, et pas le plus important, d'un programme qui se voulait une alternative aux politiques de soumission de la Grèce à ses créanciers. Avant lui, bien d'autres dirigeants nationalistes du tiers-monde se sont engagés dans un combat pour défendre l'indépendance de leur pays, avec des méthodes et un programme parfois bien plus radicaux que Tsipras. Ainsi, pour en citer quelques-uns, Nasser en Égypte ou Castro à Cuba revendiquèrent eux aussi le droit à pouvoir utiliser une partie des richesses de leur pays pour assurer son développement et bâtir une économie indépendamment des exigences et des seuls intérêts de l'impérialisme. Par calcul, ou pour se gagner le soutien de leur population, ou parce que cela correspondait à leur conception d'un réel développement, ces dirigeants utilisèrent cette marge de manœuvre arrachée à l'impérialisme pour financer la construction d'écoles, d'hôpitaux, de logements. Le résultat de cette lutte n'était donc pas indifférent aux travailleurs et aux classes populaires. Mais ces dirigeants nationalistes n'avaient pas pour perspective de renverser l'impérialisme. C'est à la bourgeoisie de leur pays qu'ils proposaient une politique pour tenter de desserrer l'étreinte de l'impérialisme qui étouffait leur pays et le condamnait à rester sous-développé. Même si cette bourgeoisie, trop liée à l'impérialisme pour chercher à s'en émanciper, n'en voulait pas forcément. Le programme de Tsipras, par rapport à ceux que je viens de citer, Nasser ou Castro, était bien plus modéré, était très modéré. Il portait sur certains points précis. Tsipras revendiquait un allègement de la dette, ce que bien des pays pauvres avaient obtenu dans le passé, et le droit de pouvoir décider lui-même de l'usage des aides européennes. Mais il s'était fait élire en proclamant qu'il allait forcer la main des dirigeants européens. Et ce simple fait représentait une forme de contestation de la domination impérialiste, susceptible en outre d'en encourager d'autres. C'est pourquoi même les revendications limitées de Tsipras nécessitaient d'engager une véritable épreuve de force avec l'impérialisme. Le fait que la Grèce appartienne à l'Union européenne ne changeait rien du tout à cet égard, car au sein de cette organisation, qui se vante de constituer un modèle de démocratie, les rapports entre les États membres sont régis par les mêmes lois que dans le reste du monde impérialiste. Les décisions qui sont prises ne résultent pas d'un processus démocratique, mais d'un rapport de force, les bourgeoisies les plus riches imposant leurs diktats aux États les plus faibles. Et ces rapports de force ne résultent pas des négociations qui se tiennent dans les salons où se réunissent les diplomates. Ils découlent des affrontements que se mènent les classes sociales, des moyens économiques et militaires qu'elles sont capables de mettre en œuvre. Les représentants de la bourgeoisie menèrent la guerre à Tsipras, en utilisant leurs armes financières, déterminées à aller jusqu'au bout, y compris en affamant la population grecque. Au lendemain de la victoire de Syriza, la BCE annonça qu'elle cesserait tout prêt à l'État grec. Et 5 mois après, à la fin du mois de juin, celui-ci se retrouva complètement étranglé financièrement. Mais Tsipras et ses ministres, eux, n'ont à aucun moment envisagé de quitter le terrain de la négociation diplomatique entre chefs d'État, et sur ce seul terrain, ils ne pouvaient pas gagner. Il faut aussi souligner que les critiques de Tsipras visaient surtout le gouvernement allemand, désigné comme le principal responsable des politiques d'austérité. Il reprenait ainsi à son compte le sentiment anti-allemand qui existe dans la population grecque depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais manifestement, il a espéré pouvoir jouer des divisions européennes et a cherché à obtenir le soutien de certains dirigeants, celle du Premier ministre italien, Matteo Renzi, et celle de Hollande, qui avait salué sa victoire électorale. Tsipras a dû rapidement déchanter, car Hollande et Merkel, appuyés par tous les autres dirigeants, adoptèrent une même attitude et manifestèrent la même détermination face à lui. Dans un article du Monde diplomatique du mois d'août, dans lequel il décrit ses rencontres avec ses homologues européens, Varoufakis, ex-ministre des Finances de Tsipras, résumait ainsi les motivations de ses interlocuteurs. Je cite. En public, les créanciers clamaient leur souhait de récupérer leur argent et de voir la Grèce se réformer. En réalité, ils n'avaient qu'un objectif, humilier notre gouvernement et nous forcer à capituler. Expliquant qu'il avait réduit ses revendications à une légère restructuration de la dette, Varoufakis concluait, devant la fin de non-recevoir opposée par ses interlocuteurs, « On exigeait de nous une capitulation à grand spectacle qui montre aux yeux du monde notre agenouillement. » Et en effet, c'était tout à fait ça. Après l'arrivée au pouvoir de Tsipras, les dirigeants de l'Union européenne tenaient à faire une démonstration politique. En dirigeants responsables vis-à-vis de l'ensemble de la classe capitaliste, ils refusèrent que quoi que ce soit puisse leur être imposé, et que cela puisse éveiller le moindre espoir dans l'esprit des populations européennes, soumises partout à la même politique d'austérité au nom du remboursement de la dette. En réformiste convaincu, Tsipras a probablement vraiment eu l'illusion qu'il allait pouvoir obtenir des concessions de ses créanciers. Mais le plus grave est surtout qu'il a entretenu cette illusion parmi les travailleurs qui ont voté pour lui. À aucun moment, il ne les a prévenus du caractère de la lutte qu'il allait falloir engager. Pour changer leur sort, pour défendre le droit élémentaire de pouvoir vivre de leur salaire ou d'une pension de retraite correcte, les travailleurs doivent se préparer à mener un combat implacable et féroce. La bourgeoisie a montré plus d'une fois dans le passé qu'elle ne reculait devant aucune méthode, depuis l'embargo économique jusqu'à l'intervention militaire. Mais les travailleurs ont montré dans le passé qu'il pouvait représenter une force capable de renverser bien des dictatures et de faire reculer les puissances impérialistes. Mais pour constituer une telle force, ils doivent avoir conscience qu'ils n'ont rien à attendre d'aucun sauveur, qu'ils ne peuvent compter que sur leur organisation, leur solidarité et sur leur seule mobilisation pour mener le combat pour leur émancipation. En tant que révolutionnaires, nous sommes inconditionnellement solidaires des masses qui luttent contre l'impérialisme pour défendre leur droit à vivre dignement. Dans la mesure où les masses populaires ont vu en Tsipras un porte-parole de cette revendication, nous avons été solidaires de son combat, aussi limité qu'il ait pu être. Mais nous avons aussi dénoncé le politicien bourgeois qu'il était et qu'il est toujours. Car Tsipras est un politicien bourgeois qui partage totalement les mêmes valeurs, les mêmes conceptions et la même méfiance à l'égard de la classe ouvrière que les Hollande et les Merkel. Pour eux, les masses n'ont pas à intervenir sur la scène politique et elles doivent laisser les chefs d'État négocier et décider. Dans tous les domaines, Tsipras s'est comporté en politicien bourgeois responsable. Pour trouver de l'argent, il aurait pu chercher à mettre la bourgeoisie grecque à contribution. Pour cela, les mesures à prendre dépendaient de lui seul et le rapport de force lui aurait été plus favorable que vis-à-vis de la BCE ou du FMI. Mais Tsipras s'est refusé à s'attaquer à la bourgeoisie grecque. Les armateurs grecs, on le sait, sont à la tête de la première flotte du monde. Mais depuis 1953, ils bénéficient d'une exemption fiscale qui a même été inscrite dans la Constitution. Tsipras ne l'a pas remise en cause. Pas plus, d'ailleurs, que n'a été remise en cause celle dont bénéficie l'Église, qui est liée à l'État en Grèce, alors que son patrimoine immobilier en fait l'un des principaux propriétaires terriens du pays. Et il y a ces grandes familles richissimes, ces oligarques, que Syriza dénonçait avant d'arriver au pouvoir. À la tête de grandes entreprises, contrôlant des banques, des médias, souvent associées à des multinationales étrangères, elles contrôlent une grande partie de l'économie grecque. Ce sont ces oligarques qui, grâce à leurs comptes en Suisse ou au Luxembourg, peuvent échapper à l'impôt et priver l'État grec de dizaines de milliards d'euros chaque année. Mais Tsipras n'a pris aucune mesure pour les contraindre à payer, pour se saisir de leur fortune visible en Grèce et de leurs biens personnels. Un seul de ces hommes a eu affaire à la justice. Léonidas Bobolas, dont la famille est à la tête d'une multinationale du bâtiment, le groupe Elactor, ainsi que de la principale chaîne de télévision privée du pays. Eh bien, ce Léonidas Bobolas, accusé d'avoir fait sortir 4 millions d'euros du pays, il a été conduit au tribunal d'Athènes en procédure de flagrant délit. Après quelques heures, il a fait un chèque de 1,8 million d'euros, comme ça, et il a pu ressortir libre. Libre de continuer à s'enrichir et à frauder. Dès l'arrivée au pouvoir de Syriza, des milliards d'euros ont fui la Grèce sans que Tsipras ne tente de s'y opposer en décidant un contrôle sur les mouvements des capitaux. Bien des États bourgeois qui n'avaient rien de révolutionnaire ont été capables de prendre une telle mesure, mais même ce courage-là, Tsipras ne l'a pas eu. Un contrôle d'échange a finalement été instauré au début du mois de juillet, quand le gouvernement, réduit financièrement aux abois, a été contraint de fermer les établissements bancaires. Mais à ce moment, les capitaux des plus riches avaient déjà trouvé refuge à l'étranger. Le dernier épisode avant la reddition de Tsipras a été l'organisation d'un référendum le 5 juillet. Tentant un dernier coup de bluff vis-à-vis des dirigeants européens, Tsipras soumit leurs exigences au vote des électeurs. Plus de 60% d'entre eux les repoussèrent et exprimèrent une nouvelle fois un vote de dignité et de refus de l'austérité. Mais pas plus que les précédentes consultations électorales, ce vote n'a entamé la détermination des dirigeants européens. Au contraire, ils renforcèrent même leurs exigences afin de punir la population grecque. Ils adressèrent un ultimatum au gouvernement grec, le menaçant d'une expulsion de la zone euro en cas de refus. Et une semaine après le référendum, le 13 juillet, Tsipras capitulait en signant un accord qui n'était rien d'autre qu'un troisième mémorandum, comparable à ceux qu'il avait dénoncés avant son arrivée au pouvoir, s'engageant à son tour à imposer de nouveaux sacrifices à sa population. Pour se justifier, il a été contraint de reprendre la même argumentation que tous les dirigeants avant lui, expliquant avoir signé ce texte pour éviter tout désastre au pays. À la différence de ses prédécesseurs, il pouvait rajouter que lui, au moins, il avait tenté de résister avant de capituler. Dans un premier temps, cela lui a permis sans doute de limiter son discrédit. Aux élections législatives du 20 septembre 2015, Syriza est arrivé de nouveau en tête, avec 35% des voix. Eh bien, aux yeux des représentants de la finance internationale, Tsipras présente maintenant l'avantage de pouvoir appliquer un plan d'austérité en bénéficiant d'un soutien populaire qui a toujours manqué à ses prédécesseurs. Et Tsipras, à son tour, doit subir le contrôle des experts envoyés par les autorités européennes pour s'assurer que les engagements qu'il a pris sont respectés, en particulier ces derniers mois, sur la question des retraites. Depuis septembre 2015, Tsipras est engagé dans une réforme du système de retraite. Après avoir annoncé la disparition progressive d'une allocation de solidarité dont bénéficiaient les retraités les plus pauvres, un tiers des retraités. Après avoir entériné le report de l'âge de départ à la retraite à 62 ans, puis à 67 ans, eh bien donc il vient de faire voter une refonte totale du système de retraite. Ce plan devrait entraîner une baisse de 15% sur la pension moyenne actuelle de 750 euros et jusqu'à 30% pour les retraites supérieures à 2000 euros, ce qui concerne environ 50 000 retraités sur 2,5 millions. Cela va entraîner une forte aggravation de la pauvreté, bien au-delà des seuls retraités. Car on estime qu'en raison du chômage, la moitié des ménages vivent ou survivent avec la seule pension de retraite d'un membre de la famille. Dans tous les domaines, en fait, Tsipras doit aujourd'hui se renier. Au début de son mandat, il avait annoncé vouloir fermer les centres de rétention pour les étrangers et rompre avec la politique de chasse aux migrants pratiquée par les précédents gouvernements. Aujourd'hui, cédant aux exigences des dirigeants de l'Union européenne, il a dû, dans un premier temps, accepter d'organiser des camps, les hotspots, pour les migrants qui arrivent par milliers en Grèce. Et depuis le 20 mars, après l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, il est tenu d'organiser l'expulsion vers ce pays de tous les migrants qui arrivent sur le territoire grec. Alors, une partie de ceux qui accusent Tsipras d'avoir trahi son programme affirment que celui-ci n'est pas allé jusqu'au bout de la politique qu'il proposait et qu'il aurait dû faire le choix de sortir de l'euro face au chantage des dirigeants européens. C'est notamment le discours de Varoufakis, son ancien ministre des Finances. C'est aussi celui de l'Unité populaire, un parti formé par des militants de Syriza opposés à l'accord signé en juillet par Tsipras et qui a recueilli un peu moins de 3% des voix aux dernières élections. Son chef de file, Panayotis Lafatzanis, est d'ailleurs lui aussi un ancien ministre du gouvernement de Tsipras. Parmi les opposants à Tsipras, à gauche, il faut aussi mentionner le Parti communiste. Dans la période récente, ses résultats électoraux ont oscillé entre 5 et 10% suivant les scrutins. Mais surtout, il représente une force militante dans la classe ouvrière qui a animé de nombreuses luttes dans les entreprises. Le Parti communiste a dénoncé en Tsipras un représentant des intérêts de la bourgeoisie. Mais il est aussi un parti très nationaliste et il prône, quant à lui, la sortie de l'Union européenne. Alors, sur cette question de l'euro, de l'Union européenne, que la Grèce reste ou sorte de la zone euro, voire de l'Union européenne, eh bien, c'est une question qui s'est discutée parmi les dirigeants de la bourgeoisie, parce que pour eux, cette question a un sens, car elle correspond réellement à des politiques différentes, modifiant les relations entre la Grèce et le reste de l'Union européenne. Mais ce sont des choix qui s'opposent à la bourgeoisie et à ses représentants dans le cadre du capitalisme. Et pour le moment, les bourgeoisies européennes, y compris la bourgeoisie grecque, ont fait le choix de conserver un cadre commun et une monnaie commune. Mais pour les travailleurs, le retour à une monnaie nationale ne changerait rien du tout à leur sort. Ils continueraient de subir l'exploitation, les salaires de famine et le chômage. Ils continueraient d'être saignés par la bourgeoisie grecque et par le capital financier dont la domination sur le monde résulte de toute l'organisation capitaliste de l'économie. Alors ce n'est pas la dictature de l'euro que les travailleurs ont à combattre, c'est la dictature des capitalistes. Depuis que Tsipras est devenu le maître d'œuvre de la politique d'austérité, 3 journées nationales de grève ont été organisées par les syndicats. La dernière en date, le 4 février, a été très suivie et des dizaines de milliers de manifestants ont parcouru les principales villes grecques pour dénoncer la réforme des retraites. Alors il est à souhaiter qu'après avoir surmonté leur sentiment de déception, les travailleurs grecs reprennent le chemin des mobilisations sans se laisser détourner par de fausses solutions, ni par ceux qui les incitent à mettre leurs espoirs dans la voie électorale. Alors, nous allons maintenant quitter la Grèce, faire un saut par-dessus la Méditerranée, et parler de l'Espagne. Pour évoquer la situation de l'Espagne d'aujourd'hui, et pour comprendre toutes les limites du radicalisme de Podemos, eh bien, il est nécessaire de rappeler que l'histoire de ce pays au XXe siècle a été profondément marquée par les luttes sociales et politiques du prolétariat des villes et des campagnes, contre le patronat, contre les propriétaires terriens et les régimes en place. En effet, le pays était resté dominé par les anciennes couches aristocratiques de grands propriétaires fonciers hostiles à tout changement et attachés au maintien d'une monarchie archaïque. La bourgeoisie espagnole était demeurée faible et très liée aux classes privilégiées les plus conservatrices. À côté du Parti socialiste, s'est développé très tôt dans les milieux ouvriers et populaires et dans les campagnes un courant anarchiste dont les militants, très combatifs, surgagnaient une influence importante. Au début des années 1930, l'Espagne connut une crise révolutionnaire, avec des secousses politiques qui aboutirent au départ du roi et à la proclamation de la République. Pendant les années qui suivirent, les luttes de la classe ouvrière et de la paysannerie se multiplièrent, exprimant la soif de changement, la combativité et la conscience de classe de millions d'ouvriers et de paysans qui ne voulaient plus de l'avenir que leur imposaient les propriétaires terriens, les banquiers, les patrons espagnols ou anglais, très présents dans l'économie espagnole. Des grèves, des occupations des grands domaines dans les campagnes, voire des insurrections, comme dans les Asturies en octobre 1934, éclatèrent de plus en plus nombreuses malgré la violence de la répression. La radicalisation des masses ouvrières se traduisit sur le plan électoral par la victoire aux élections de février 1936 du Front populaire, une coalition constituée par des républicains bourgeois, le Parti socialiste et le Parti communiste. L'arrivée au pouvoir du Front populaire encouragea les masses à se mobiliser encore davantage pour mettre un coup d'arrêt à la montée de la contestation sociale et politique qui menaçait leur pouvoir et leurs privilèges. Les classes possédantes, l'Église, l'armée, tout ce que l'Espagne comptait de forces réactionnaires apportèrent leur soutien à la tentative de putsch dirigée par le général Franco en juillet 1936. Le coup d'État de Franco se heurta à une forte mobilisation populaire et déclencha finalement la révolution qu'il avait voulu empêcher. Dans de nombreuses villes, des travailleurs prirent d'assaut les casernes et désarmèrent les militaires. À Barcelone, ce fut une véritable révolution ouvrière qui éclata. Le pays se retrouva coupé en deux, car la moitié de l'Espagne échappait au contrôle des putschistes. Une longue guerre civile de 3 années s'ensuivit entre les troupes franquistes et le camp républicain. Mais au sein de ce camp républicain, une autre guerre se livra, contre la classe ouvrière, celle-là, pour la mettre au pas politiquement derrière la bourgeoisie, pour limiter la lutte qui se menait à la défense de la République, alors que la population pauvre se mobilisait, elle, pour mettre fin à l'exploitation, pour le partage des terres dans les campagnes, pour mettre fin à la misère et aux injustices sociales, pour assassiner, réprimer et désarmer les militants révolutionnaires et les travailleurs qui avaient constitué leur propre milice, les représentants de la bourgeoisie, purent compter sur l'aide active des dirigeants du Parti socialiste et du Parti communiste stalinien qui ne reculèrent devant aucun moyen, aucune violence et aucun crime pour écraser la révolution sociale naissante. Quant aux dirigeants anarchistes, ils finirent par se rallier à une politique qui contribua à désarmer la classe ouvrière, en particulier à Barcelone, où la mobilisation révolutionnaire avait été le plus loin. L'élan révolutionnaire fut brisé. Et une fois que cet élan révolutionnaire a été brisé, la guerre civile continua pendant 3 années jusqu'à la victoire de Franco en 1939. Alors si nous évoquons ces événements du passé, c'est d'abord parce qu'ils sont encore présents dans bien des consciences encore aujourd'hui, mais aussi parce que les leçons politiques qu'il y a à en tirer sont toujours d'actualité. Ces événements ont constitué en effet une démonstration cinglante du fait que la réalité sociale ne peut pas se transformer par les urnes et que la lutte de classe est une véritable guerre. Une guerre dans laquelle les classes possédantes sont prêtes à tout pour défendre leur pouvoir quand elles le jugent menacé. Dans cette période que nous venons d'évoquer, la classe ouvrière s'est mobilisée et battue, y compris les armes à la main. La détermination ne lui a pas manqué, mais elle a manqué par contre d'un parti révolutionnaire capable de l'aider à déjouer les pièges qui lui étaient tendus par ses ennemis, mais aussi et surtout par ceux qui prétendaient la représenter et qui l'ont trahie. À l'issue de cette terrible défaite du prolétariat espagnol, Franco instaura un régime de dictature qui resta en place pendant près de 40 ans, bénéficiant de la tolérance des États-Unis et des démocraties européennes qui se contentaient de la dénoncer en parole. Ainsi, Franco put rester au pouvoir jusqu'à sa mort, le 20 novembre 1975. Les militants ouvriers, communistes et anarchistes, payèrent chèrement les trahisons de leurs dirigeants. Pour sauver leur vie, pour échapper aux exécutions, au camp ou à la prison, ils furent nombreux à devoir prendre le chemin de l'exil. Mais beaucoup aussi restèrent en Espagne, continuant à militer clandestinement sous le régime franquiste, travaillant à reconstruire un mouvement ouvrier. Ils payèrent de leur licenciement, de leur liberté, voire de leur vie, leur engagement politique. Ce furent essentiellement les militants communistes, plus organisés, qui jouèrent un rôle décisif dans le développement d'une organisation syndicale clandestine au travers des commissions ouvrières. À partir de la fin des années 1950, encouragés par le régime et attirés par le bas niveau des salaires, les capitaux occidentaux commencèrent à s'investir en Espagne, particulièrement dans l'industrie. Plusieurs groupes automobiles firent ce choix. Renault ouvrit une usine à Valladolid pour y produire alors des 4 chevaux. Citroën s'installa à Vigo, Ford à Valence. La classe ouvrière se développa fortement autour de toutes les grandes villes d'Espagne, dans des sites industriels, les polygones, comme on les appelait, où beaucoup de jeunes issus des campagnes venaient se faire embaucher. Les bas salaires et les conditions d'exploitation qui attiraient les capitalistes amenèrent ces nouvelles générations à renouer avec les traditions de lutte. Pourtant, sous Franco, il n'y avait pas de droit de grève, et cette dernière était passible de prison. Un travailleur qui se mettait en grève risquait son emploi et même sa vie. Une loi datant de 1958 reconnaissait aux travailleurs le droit d'élire des délégués pour conclure des accords au niveau local, régional et national. Les militants du Parti communiste se saisirent de cette possibilité pour mettre en avant les revendications des travailleurs avec comme objectif, à chaque fois que c'était possible, de généraliser les luttes d'une entreprise au reste du polygone industriel et même au-delà. Cette stratégie était la seule susceptible de faire reculer le pouvoir. La première de ces grandes grèves eut lieu en 1962 quand des milliers de mineurs des Asturies se mirent en grève pour des améliorations de travail et des augmentations de salaire. Devant l'importance de la mobilisation, appuyée par la population, le ministre franquiste du Travail fut contraint de descendre lui-même dans un puits de mine pour négocier et finalement céder aux revendications des travailleurs en lutte. Dans les années 60 et 70, d'autres grèves importantes eurent lieu. Le régime répondait par la répression, mais il devait aussi accepter de faire des concessions aux travailleurs. Dans cette période, la classe ouvrière montra sa capacité à se faire craindre du régime. Aussi, quand la question de la transition politique se posa avec la mort en 1975 du vieux dictateur, la bourgeoisie avait toutes les raisons de craindre que cela donne lieu à des mobilisations. Un an auparavant, en 1974, au Portugal, la révolution des œillets avait renversé une dictature plus ancienne encore que celle de Franco et avait ouvert une période d'instabilité politique et de lutte sociale. Les cercles dirigeants du régime franquiste décidèrent d'organiser eux-mêmes, par en haut, la mutation du régime, ce qu'on a appelé la transition. Il leur fallait à la fois assurer la continuité de l'État, garant de la stabilité sociale, obtenir l'accord des milieux les plus conservateurs, qui restaient partisans d'un pouvoir fort, et donner satisfaction aux aspirations démocratiques qui s'exprimaient dans la société espagnole. Il fallait aussi lâcher suffisamment de lest pour que les partis de gauche, en particulier le Parti communiste, puissent justifier auprès de leur base militante leur entente avec la droite franquiste. Ils s'accordèrent sur un compromis. Le régime serait une monarchie parlementaire et seuls les partis reconnaissant la légitimité du roi Juan Carlos seraient légalisés. La pilule était dure à avaler pour le Parti communiste espagnol, pour lequel l'instauration d'une république était une revendication essentielle. Et ce renoncement ne fut ni le seul, ni le plus lourd de conséquences. Car pour être reconnu comme un parti légal, les dirigeants du PCE acceptèrent aussi de signer en 1977 le pacte de la Moncloa, dans lequel ils s'engagèrent à ne pas compromettre la paix sociale. Et pourtant, cette période était marquée par un développement des luttes et des grèves, animées par des militants bien souvent liés au Parti communiste. Ceux-ci ressentirent cette abdication comme une trahison. Le Parti communiste perdit rapidement une partie de sa base militante qu'il avait pourtant su conserver sous la dictature. Et il le paya aussi en se retrouvant marginalisé sur le plan électoral. Le Parti socialiste, le PSOE, vit, lui, ses résultats électoraux progresser au fil des scrutins. S'il n'avait jamais été le fer de lance de la lutte contre le patronat et le régime franquiste, il pouvait se présenter comme le plus apte parmi les partis de gauche à arriver au pouvoir par les urnes. Aux élections législatives d'octobre 1982, le PSOE obtint 48% des voix, tandis que le Parti communiste dépassa à peine les 4%. Le dirigeant du Parti socialiste, Felipe González, devint Premier ministre en décembre 1982 et il incarnait alors la réussite de la transition de l'Espagne. Mais González était là pour défendre les intérêts de la bourgeoisie espagnole en lui garantissant la paix sociale et le respect des nouvelles institutions. Après avoir mis un frein aux luttes de la classe ouvrière et après avoir neutralisé la combativité des milieux communistes, déçus d'être mis au second plan, le PSOE se fit le champion de la défense des intérêts de la bourgeoisie espagnole. En dotant leur pays d'institutions parlementaires, en effet, les milieux dirigeants espagnols n'avaient pas seulement voulu résoudre des problèmes politiques intérieurs. C'était aussi une des conditions posées par la communauté économique européenne à l'adhésion de l'Espagne. Or, pour la bourgeoisie espagnole, il devenait de plus en plus impératif de pouvoir accéder au marché des grands pays occidentaux. L'adhésion à la CEE impliquait d'imposer des sacrifices aux travailleurs afin de rendre l'économie espagnole compétitive, pour reprendre les termes favoris des porte-parole de la bourgeoisie. Ce fut donc le gouvernement socialiste qui s'y appliqua, avec d'autant plus de détermination qu'il avait à cœur de démontrer qu'il était capable de servir les intérêts du patronat et des banquiers. Felipe González organisa la restructuration des secteurs économiques insuffisamment rentables pour la bourgeoisie, dans les mines de fer, de charbon, les chantiers navals et l'industrie textile. Des vagues de licenciements se succédèrent. Le dirigeant socialiste évoquait la nécessité de procéder à des reconversions industrielles. Mais en fait de reconversion, dans de nombreuses régions, des zones entières se transformèrent en friches industrielles et le chômage fut presque multiplié par 4, atteignant près de 20% dans les années 80. En 1986, l'Espagne intégra la CEE, ce qui ouvrit à sa bourgeoisie l'accès aux mannes des fonds européens destinés au financement d'infrastructures, de ports, d'aéroports, d'autoroutes et de nombreux équipements. Ainsi, l'Espagne s'est modernisée. En effet, l'Espagne n'est plus le pays fortement retardataire qu'elle était sous Franco. Sur le plan politique aussi, l'État espagnol s'est modernisé, devenant une démocratie, à l'image des autres États occidentaux, permettant à la population de choisir ceux qui, au gouvernement, mèneront de toute façon la politique exigée par la bourgeoisie espagnole. Et après que les socialistes se soient discrédités au pouvoir, Eh bien, les travailleurs espagnols ont fait l'expérience de l'alternance, de nouveau, encore, la droite est revenue aux affaires, après, elle aussi, s'est modernisée pour faire oublier ses liens avec le régime franquiste. Ce jeu de l'alternance droite-gauche a pu fonctionner grâce à la complicité des organisations syndicales, dont les bureaucraties se retrouvèrent intégrées dans des organismes de négociation. Durant cette période où les gouvernements successifs ont mené des politiques anti-ouvrières, l'UGT, liée au Parti socialiste, et les commissions ouvrières liées au Parti communiste, ont tout fait pour paralyser l'action des travailleurs et pour les démoraliser. Dans ces années-là, les travailleurs ont dû affronter les licenciements, le chômage, la précarité, en étant désarmés politiquement et sans organisation pour réagir. Pourtant, dans ce pays où un peu plus d'un demi-siècle plus tôt, la classe ouvrière avait mené une lutte sans merci contre ses exploiteurs, eh bien des dizaines de milliers de femmes et d'hommes se revendiquaient des idées du mouvement ouvrier. Au début des années 2000, le pays a connu quelques années de croissance qui ont amené des économistes à parler d'un miracle espagnol. Certes, la bourgeoisie a vu ses profits exploser et des entreprises espagnoles se sont lancées à la conquête des marchés en Europe et en Amérique latine. Mais pour les travailleurs, il n'y eut vraiment rien de miraculeux. Dans ces années-là, des millions de familles populaires devinrent certes propriétaires de leur logement, mais en s'endettant auprès des banques, qui proposaient des crédits immobiliers à taux variable, dont le remboursement s'étalait sur 20 ou 30 ans. Et en fait de miracle, la croissance de l'ensemble de l'économie espagnole était fondée essentiellement sur l'essor du secteur de l'immobilier et de la construction, et de plus en plus sur la seule spéculation immobilière. Les capitaux, attirés par la perspective de profits rapides et importants, venaient massivement s'investir dans ce secteur. De gigantesques complexes immobiliers étaient construits en anticipant sur des ventes qui souvent ne se concrétisaient pas. Des immeubles, parfois des quartiers entiers, poussèrent comme des champignons et restèrent inhabités. Une bulle immobilière se formait. Et quand cette bulle éclata, à l'après la crise de 2008, elle entraîna la faillite en cascade de nombreuses entreprises au-delà du seul secteur du BTP. Les banques qui avaient massivement investi dans l'immobilier se retrouvèrent en possession d'actifs qui ne valaient plus rien. Elles firent appel à l'État pour les renflouer, ce qu'il fit en creusant la dette publique. Vite dépassé par la gravité de la crise, l'État espagnol se vit contraint de demander le soutien financier de l'Union européenne. En 2004, le PSOE était revenu aux affaires. Et au début de la crise, eh bien, ce fut donc un gouvernement dirigé par le socialiste Zapatero qui imposa aux classes populaires la politique d'austérité et les sacrifices exigés par la bourgeoisie espagnole et par les instances européennes. Pour trouver les milliards nécessaires au sauvetage des banques, Zapatero soumit le secteur public à une politique de restriction budgétaire, diminuant les salaires des fonctionnaires, privatisant certaines activités. L'âge de départ à la retraite fut repoussé à 67 ans. Pas plus qu'en Grèce, cette politique ne visait à faire redémarrer l'économie. Le seul objectif du gouvernement était de sauver les profits des banquiers et de l'ensemble des capitalistes en faisant payer les conséquences de la crise aux classes populaires. Et celles-ci virent leurs conditions de vie régresser brutalement. Entre 2008 et 2013, le chômage explosa, atteignant plus de 27% de la population et plus de 50% pour les jeunes, comme dans les années 50. Des centaines de milliers d'entre eux quittèrent le pays pour trouver un emploi. Des centaines de milliers d'Espagnols, ne pouvant rembourser leurs emprunts de ces logements qu'ils avaient achetés, eh bien, ont été expulsés de ces logements saisis par les banques. Mais comme les banques n'arrivaient pas à revendre ces logements et qu'elles se refusaient à les louer, il y avait ainsi des millions de logements vides alors que des milliers de personnes se retrouvaient privées de toit. Liés au Parti socialiste et complètement intégrés dans la collaboration avec le patronat, les directions syndicales ne proposèrent aux travailleurs aucune politique susceptible de lui permettre de répondre à ces attaques. Et c'est dans ce contexte que se développa la mobilisation organisée par le mouvement dit du 15e, car il débuta le 15 mai 2011, connu plus souvent sous le nom de mouvement des indignés. Et, eh ben, on verra à la reprise. Allez, on va...